Attends deux secondes, on relance le vote.
Ok.
Alors, je me pose ma question.
C'est bon ? Alors attends, attends, je vais répondre aux questions déjà qu'il y a sur le chat et puis après note-la sur le chat au pire Goliath, comme ça je passerai sur. Ça parle. Alors, Classsoft 8 installé et pas installé, je sais pas si les bots étaient activés quand j'ai répondu, mais bah, grosso modo, ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu veux faire ton PC, ça dépend de bah, tout en fait. Il n'y a pas de règle. Il y a des gens qui se mettent des interdits, par exemple, interdiction d'installer un logiciel propriétaire, pour répéter ma réponse du coup. Et typiquement, il y a des distributions qui sont faites pour ça, par exemple Triskel. Qui a été fait par un breton, j'imagine, est une distribution Linux qui est entièrement libre, qui n'a que des logiciels libres et qui t'interdit d'installer des logiciels qui ne sont pas libres. Debian, c'est une autre distribution qui, par défaut, ne permet pas l'installation de logiciels libres, par exemple. Raison pour laquelle je suis très réticent à recommander Debian à des utilisateurs lambda, puisque bon, bah, ça demande un peu de configuration pour pouvoir installer ce qu'ils veulent. Mais ouais, donc il n'y a pas vraiment de règle sur quoi installer, quoi pas installer. À la rigueur, n'installe pas de logiciel qui ne vient pas de ton gestionnaire de paquets. N'installe pas de logiciel que tu peux pas dont tu ne peux pas garantir l'intégrité. En théorie, le gestionnaire de paquets possède tout ce qu'il te faut. Après, bah, fais-toi plaisir. Autre question. Est-ce que tu utilises Wireshark ? Non, je n'utilise pas Wireshark parce que je n'en avais pas besoin. Bon, bah, j'ai pas grand-chose à analyser sur mon réseau.
Il y a TCP dump sous Linux ?
Ouais, TCP dump, ouais, exactement. Ça, si je veux analyser mon trafic, je fais ça directement. D'ailleurs, je l'utilise à mon taf. La VM des GSE qu'on a vu au début ? What ? Est-ce que d'autres questions ? Bon, le micro fonctionne pas, vous demandez la parole si j'ai bien compris. Mathieu91, si ton micro fonctionne pas, c'est parce que peut-être parce que tu es en push-to-talk. Enfin, il faut le salon vocal est en push-to-talk, donc il faut que tu configures ton micro comme étant utiliser une touche pour parler, quoi. Sinon, ça fonctionnera pas. Et tu parleras dans le vide.
J'en profite en attendant qu'il active le push-to-talk. En règle générale, les gens disent je ne vais pas sur Linux parce que je peux pas installer les jeux dessus, je peux pas jouer, etc. C'est un argument qui revenait souvent ces derniers, enfin, les dernières années où j'en discutais avec des gens. Mm-hmm. J'ai entreaperçu ta bibliothèque de jeux
qui est un peu trop grande à mon goût.
Tu peux, enfin, en gros, t'as Pour tous les jeux qui sortent aujourd'hui, t'as une version Linux qui sort ou t'as un moyen de contourner le blocage,
alors,
le fait de ne pas être sur Windows finalement.
Alors. Grosso modo, il y a un truc qui s'appelle Lutris, qui est un programme très 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 bien. Et je vais vous présenter un autre site internet vu que la question c'est ça, qui s'appelle ProtonDB. Alors, vous avez un site internet qui s'appelle ProtonDB. Ouais. Google Manager, lol, bloqué. Donc ProtonDB, en fait, c'est un site internet qui répertorie tous les jeux vidéo qui sont sur Steam, grosso modo, et qui vous liste, grosso modo, la liste des jeux qui existent et les jeux qui fonctionnent. Et du coup, ça vous dit, grosso modo, quel est l'état du jeu. Par exemple, si vous prenez New World, vous ne connaissez même pas, il est injouable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a Easy Anti-Cheat. Easy Anti-Cheat, c'est un logiciel, bah, comme son nom l'indique, pour éviter la tricherie dans les jeux vidéo. Alors, toi, plus tard. Donc, c'est un logiciel qui permet d'éviter la triche dans les jeux vidéo et qui n'est disponible que sur Windows. Donc, en fait, par défaut, tous les jeux qui utilisent Easy Anti-Cheat pour éviter la triche sur Internet, sur le jeu en ligne, bah, ça ne fonctionnera pas. Ça va changer. Parce que là, les développeurs de Easy Anti-Cheat ont annoncé supporter Linux dans les semaines / mois qui arrivent. Officiellement, en fait, c'est déjà supporté, mais il faut le temps que les développeurs fassent une petite mise à jour pour permettre à Linux de se connecter et de pouvoir utiliser Easy Anti-Cheat, en fait, grosso modo. Mais donc, du coup, en fait, de façon générale, les seuls jeux vidéo qui ne tourneront pas sur Linux, c'est ceux qui utilisent justement tous ces logiciels, alors, Denuvo, Easy Anti-Cheat, et ainsi de suite. Enfin, tout ce genre de logiciels. Les autres jeux vidéo, par exemple, là, Lutris, vous voyez que j'ai GTA V. GTA V n'est pas natif à Linux, mais fonctionne. Alors, comment ça fonctionne ? Pendant très longtemps, sous Linux, il y avait un programme qui s'appelait Wine, et qui permettait en fait d'exécuter les programmes Windows sur Linux, comme si ils étaient natifs, entre guillemets. En fait, ça fait les traductions des appels système du programme vers donc le système Linux, pour l'aspect technique. C'est pas de l'émulation, c'est vraiment une traduction d'appels de commandes, en fait. Et quand Valve a commencé à venir sur Linux, ils ont pris Wine, ils ont fait Proton, qui au final utilise Wine, ils ont fait Proton, et c'est un truc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant, et qui du coup permet de faire tourner n'importe quel jeu. C'est-à-dire que là, j'ai GTA V qui fonctionne très très bien en ultra. Et si je vais sur mon compte Steam, Close. Du coup, elle est où le... Voilà. Et si vous allez sur Steam, concrètement, Cyberpunk 2077, typiquement, il fonctionne très très bien, puisque j'ai déjà pu le terminer une reprise, et puis j'ai lancé d'autres sauvegardes. Donc il n'y a pas de souci. Donc c'est un jeu qui n'est pas natif. Si vous regardez par exemple Pathfinder, c'est un jeu qui n'est pas natif. Move or Die, c'est un jeu qui est natif pour le coup. Et vous avez plein de jeux comme ça. Nier Automata n'est pas un jeu qui est natif. Et il fonctionne très bien grâce à Proton. Donc en fait, si vous regardez dans les propriétés du jeu, Steam permet compatibility. Utiliser un outil Steam Play de compatibilité, donc c'est Proton, voilà, et qui permet du coup à tous ces jeux d'être natifs. Voilà. Les jeux vidéo sont de façon générale supportés, à part ceux qui ont besoin d'outils anti-triche. Par contre, ce n'est pas vrai pour les autres logiciels lambda, comme par exemple tout ce qui est Photoshop, Windows, Microsoft Office. Ce genre de programme, malheureusement, à ma connaissance, ne fonctionne pas. Je les ai pas utilisés, enfin, je les ai pas testés, mais normalement, ils fonctionnent pas. Donc, on peut pas tout faire fonctionner grâce à ça, malheureusement. Y a-t-il d'autres questions ? Mathieu, si tu as ton micro qui fonctionne à nouveau. Ta-ta-ta, tu cascartes.
Ouais, allô ?
Oui.
Ah, ok. j'avais le Prime, j'ai dû configurer le micro, tout ça. C'est cool, là, cette présentation. Peut-être faudrait que je vois si je refais les trucs là, sur la machine virtuelle. Mais j'ai des questions. Par exemple, moi j'avais les questions d'ordre vie privée, tout ça, là, c'est des choses que je me pose pas mal en ce moment. Tu vois, un peu savoir comment tu t'organises, tu vois, pour bien sécuriser ton système, pour éviter, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, comment tu navigues sur Internet, peut-être, par exemple, pour tout ce qui concerne la gestion des cookies, de masquer un petit peu tes informations pour être assez transparent, en fait, des choses comme ça, quoi.
Alors, c'est une réponse compliquée, et c'est pour ça que je voulais faire un livre blanc sur la vie privée, justement, mais c'est un peu compliqué à faire, sachant que j'imagine que il y a beaucoup de choses que je devrais faire ou que je pourrais faire et que je ne fais pas forcément, en tout cas typiquement utilisation de proxy, de VPN, etc. C'est un truc, ça me gonfle à un point pas possible, donc du coup je le fais pas du tout. Utilisation de Tor pour naviguer sur internet, idem, je le fais pas du tout. En revanche, du coup, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un navigateur qui... alors, tu as Firefox. Si tu vas dans paramètres, tu vas dans vie privée, sécurité. Alors, rien que là, en fait, tu as des choses déjà qui sont pas super ouf, par exemple. Voilà. Rien que ça, tu vois, lire le contenu protégé par les DRM. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop ça. Après, tu as tout ce qui est envoie des rapports de performance du navigateur avec des informations qui peuvent plus ou moins être personnelles, etc. Il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Ensuite, tu as tout ce qui est déjà au niveau de la recherche. Tu vires tout ce qui est Google, Bing et compagnie. Tu utilises des moteurs de recherche qui sont un peu moins graves, enfin un peu moins, qui attenteront un peu moins à ta vie privée. DuckDuckGo n'est pas très clean, hein, d'ailleurs, au passage. C'est pas... Enfin, il y a des suspicions comme quoi DuckDuckGo ne serait pas très 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 éthique. Mais en tout cas, on n'a pas beaucoup de choix, en tout cas, en termes de moteur de recherche. Grosso modo, il y a aussi la stratégie du ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, t'éparpiller les trucs, comme ça, au moins, ils n'ont pas beaucoup de choses sur toi. Il y a cette stratégie-là, donc il faut l'utiliser. Après, au niveau de Firefox, bah, tu peux personnaliser pour justement bloquer les cookies tiers ou bloquer tous les cookies, ce genre de choses, supprimer l'historique de navigation et ainsi de suite. Alors ça, c'est Firefox par défaut. Il est un peu... Alors par défaut, Firefox est très mal configuré. Sachant qu'en plus, si on veut vraiment le configurer, il faudrait aller dans... je sais plus, c'est... pas de config, où en fait ici tu auras accès à des options en plus que tu n'as pas accès dans ton menu de préférence. Et là il y a des trucs à configurer en plus. Sinon tu as la solution de Flemar, c'est d'utiliser LibreWolf. Et LibreWolf et alors où es-tu LibreWolf? Voilà. LibreWolf par défaut vient avec un certain nombre d'extensions déjà de base. LibreWolf vient avec uBlock. Par défaut, donc il vient avec un bloqueur de publicité. Ensuite, au niveau des configurations, tu vas voir par exemple, on peut choisir DRM, mais par contre au niveau de la vie privée, tu peux pas choisir l'option standard. Tu peux pas choisir l'option strict. Il te bloque sur, par défaut, sur bloque les cookies et ce genre de choses. Idem pour les tracking content, etc., etc., etc. Donc il est beaucoup plus restrictif là-dessus. Par défaut, il supprime ton historique, tes cookies lorsque tu fermes ton navigateur. Tu ne peux pas l'autoriser à envoyer des données à LibreWolf. Le truc est bloqué, donc tu peux pas cliquer sur j'autorise. Donc par défaut, il n'enverra rien. Voilà. Tu as des navigateurs comme ça qui essaient d'avoir un petit focus, de se concentrer un peu sur la vie privée. Voilà. Après, tu as différentes extensions, par exemple. Typiquement, tu auras uBlock Origin qui est pas trop mal. Après, un site internet qui potentiellement serait pas terrible, hein, lemonde.fr. Tiens, c'est pas un site très réglo en général. Donc par défaut, après, tu auras par exemple NoScript qui va te bloquer les scripts en fait, qui va empêcher les scripts de s'exécuter. Donc là, par exemple, là, j'ai pas eu la bannière. Voulez-vous un cookie? Parce que il est bloqué. Et si je vais sur un article, pareil, hein, je peux accéder à l'article et j'ai pas le truc, voulez-vous un cookie? Si j'active le monde, là déjà il me demande, est-ce que vous voulez un cookie? Ce qui est pas ouf. Et si je dis j'accepte, je recharge la page, et là vous voyez qu'en fait il va charger plein de choses. Amplitude, Badge, Charbit, Facebook, Google Manager, etc., etc. Plein de connexions qui seront faites sur leur partenaire de confiance.
C'est quelle extension ça?
NoScript. Et par défaut, donc, ils sont tous bloqués, en fait. Et d'ailleurs, normalement, si je vais dans... si je me foire pas et que je vais dans... Network. Ouais, ils sont bloqués par défaut. Ça m'étonne qu'ils affichent pas... D'accord. Ah, je pensais qu'ils afficheraient un peu tous les trucs bloqués dans Network. Bon, tant pis. Mais potentiellement, il me semble qu'il y a une option pour justement afficher tous les trucs qui ont été bloqués lors du chargement de la page. Donc, tu as des extensions comme ça qui te permettront ça. Decentralize, c'est...
Zilot, dans Network, ouais. Tu n'as affiché que le HTML. Tu peux mettre All pour voir tout ce qu'il y a.
Ah, bien. Merci. Flemme de voir. Ah, Bloqué. Merci, Bento. J'avais la flemme de chercher là sur le coup. Ça m'était sorti de la tête. Donc, tu vois que les requêtes sont en fait bloquées par du coup NoScript en fait. Après, tu as d'autres extensions, HTTPS Everywhere, pour forcer le HTTPS sur le site qui potentiellement a les deux versions. Tu auras Privacy Badger qui va s'amuser à bloquer les trackers en plus. Après, tu auras tout ce qui est changer ton user agent. Donc, en gros, tu te fais passer par exemple, là je suis sous Linux en utilisant LibreWolf. Et là, je vais me faire passer pour Windows 10 avec Chrome version 99, tu vois. Et après, tu auras Canvas Blocker pour tout ce qui est fingerprinting. Donc, des mecs qui essaient de te coller une identité et de te traquer à travers différents sites. Donc, tu as plusieurs extensions comme ça qui existent, qui te permettent de gérer au niveau de ta vie privée sur Internet. Tu as l'utilisation de VPN, de proxy, tu as l'utilisation de plein de choses. Après, tu as des trucs un peu plus hardcore. Tu peux t'amuser à changer ton DNS. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser le serveur DNS par défaut, c'est-à-dire normalement, c'est ton fournisseur d'accès Internet, tu peux choisir un DNS un peu plus clean. Donc, soit tu vas chez Google, soit tu vas chez un truc un peu plus clean. Tu en as des trucs un peu plus respectables, on va dire. Mais t'as beaucoup de choses en fait, voilà. T'as beaucoup de choses possibles à faire au niveau de la vie privée, ça serait très très long de tout lister, c'est pour ça que je voulais faire un livre blanc, mais c'est quand même complexe quoi. Et sachant que la vie privée ne s'arrête pas malheureusement à Internet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu utilises ta carte bancaire, voilà, là t'es un peu t'es tracé bien comme il faut. Sachant que si tu as par exemple, si t'habites en Île-de-France et que t'as une carte Navigo, bah tous tes déplacements seront tracés et en fait. À partir de ces informations-là, c'est très facile de savoir dans quel quartier tu habites, dans quel quartier tu travailles, où habitent tes potes, ta petite amie, tes parents, ce genre de choses. Tu peux très facilement retrouver des informations grâce aux géolocalisations. Derrière, tu as ton ordinateur, mais tu as aussi ton téléphone portable, qui ouais, est une horreur de vie privée. Enfin,
ce qui est messagerie, tout ça, quoi, aussi. Hein.
Voilà. Après, au niveau des messageries, de toute façon, tu es sur Discord, donc là, déjà, on a perdu. Après, tu as un truc qui s'appelle Element. Voilà, en espérant que c'est pas des. Donc voilà, t'as Element qui en fait permet de discuter de façon sécurisée. C'est centralisé, c'est chiffré, de bout en bout. Donc t'as des applications de chiffrement après sur portable, t'as Signal. Signal qui du coup a une version quand même desktop, j'imagine, comme WhatsApp à mon avis, mais en tout cas Signal c'est un peu plus ouvert là-dessus. Donc bon, t'as quand même pas mal de choses. Alors, attends, je remonte un peu le... Donc, mais la vie privée, franchement, un jour, il faudrait qu'on fasse un petit truc, une petite réunion entre personnes qui s'y connaissent un peu en vie privée et qu'on fasse un gros livre blanc avec des recommandations, un petit guide, un petit manuel, une infographie, je sais pas.
Bah, pour la vie privée, moi, j'ai commencé à prendre des notes sur, personnelles, mais après, moi, ça me dérange pas de partager.
Mais il faut partager. Dual boot, isolation via virtualisation, chiffrement des disques, quel matos passe bien sous Linux? C'est une question pour moi, j'y essaie du coup ou pas? En tout cas, niveau dual boot, bah oui, ça passe très bien, il n'y a aucun souci, tu peux faire du dual boot avec un SSD, un HDD, y a pas de souci. Isolation via virtualisation. Mais en fait, c'est des choses qu'on. Mais enfin, j'imagine que tu connais déjà tout ça, non, JST Je sais pas si tu peux prendre la parole.
C'était ton avis que je trouvais intéressant d'avoir pour le. Enfin, que je pensais intéressant à... que tu communiques sur les
sujets. Ah, sur ces sujets-là dual boot. Ah oui, d'ailleurs, en vie privée, il y a aussi le chiffrement des disques et compagnie. Hein. Et après, il y a aussi, chose importante, un gestionnaire de mots de passe qui te permet du coup d'avoir des mots de passe uniques sur chaque site internet. Enfin bref, si jamais il y a un leak comme ça, tu ne fais pas péter tous tes comptes. Enfin bref, un truc un peu classique. Mais un gestionnaire de mots de passe, déjà, c'est une très très bonne pratique et accessible pour tous. KeePass XCS. KeePass XC, par exemple. C'est un gestionnaire de mots de passe libre et géré par la communauté, il n'y a pas d'entreprise derrière, donc du coup ça passe bien. Sur ces sujets-là, le dual boot, très bien. C'est une bonne chose pour les personnes qui veulent passer un peu à Linux, mais qui ont besoin de Windows encore. Moi, personnellement, à partir du moment où tu n'as plus trop besoin de Windows, je suis pour complètement supprimer Windows et ne plus jamais y revenir. Donc moi, ça fait 4 ans, 5 ans, attends. Ça fait un certain nombre d'années que je ne vais plus sur Windows et que je n'ai plus Windows sur ma machine. C'est une très bonne chose pour les personnes qui veulent découvrir Linux. Pour quelqu'un qui connaît déjà Linux, vaut mieux complètement supprimer Windows et ne plus y penser. L'isolation via la virtualisation, bah ça reste une bonne pratique. Après, en fait, c'est des questions assez spécifiques et je trouve un peu compliquées parce que c'est pas pour des utilisateurs lambda, je pense. Et je suis...
Ok.
C'est pas des trucs qui sont facilement accessibles aux utilisateurs lambda, en fait. Pour ça, je suis pas certain que c'est une bonne chose d'en parler à des utilisateurs lambda, si tu veux.
D'accord, très bien. Non, très bien.
Après, le chiffrement des disques, bah, si possible, faites-le. Après, moi, je le fais pas, même si je sais que je devrais le faire. Mais après, ça dépend ce que tu... Enfin, après, le chiffrement des disques, c'est important si jamais quelqu'un accède à ta machine alors qu'elle est éteinte et que t'es pas connecté, et voilà, quoi.
Bah, ou tu la perds, quoi.
Ou tu la perds, voilà.
Tu la fais piquer.
Donc effectivement, le chiffrement des disques, faites-le si possible, surtout si c'est un ordinateur portable, effectivement. Et après, pour le matos qui passe bien sous Linux, ça par contre, effectivement, la question est pertinente. Les ordinateurs portables ont un très mauvais support sur Linux. Donc du coup, il y a potentiellement des bugs. Malheureusement, c'est comme ça. Les constructeurs de matos portables sont très méchants. Et de façon générale, Nvidia supporte très très mal Linux. La seule raison pour laquelle ils supportent Linux, c'est pour les serveurs et c'est pour les grosses farms, pour les gros serveurs de calcul, entre autres les serveurs de calcul d'Hollywood. Puisque Hollywood aime bien Linux. D'ailleurs, le premier film à avoir utilisé Linux pour faire du calcul de graphisme, d'effets spéciaux, c'était le Titanic. Pour la petite histoire. Donc du coup, le matos qui passe bien sous Linux, c'est AMD. AMD s'est dit « fuck it, on va passer tout en open source, on va libérer le code, ça va être beaucoup plus efficace, ça va nous coûter moins cher », et ils ont eu raison parce que du coup maintenant c'est très très bien supporté, les performances sont beaucoup plus stables que Nvidia, il y a beaucoup moins de surprises. Donc non, franchement, les cartes graphiques AMD... Intel, ouais, mais Intel du coup pour faire du jeu vidéo, ce genre de choses, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est de l'intégrer. Mais Intel, oui, effectivement, a très bien supporté du coup Linux d'un point de vue au niveau de ses chipsets graphiques intégrés, oui. J'hésite à conseiller Linux à des utilisateurs lambda. Alors, c'est plus compliqué à mettre à jour ? Non. Alors, moi, personnellement, pour mettre à jour, je fais comme ça. Update. Tape mon mot de passe. Et puis, here we go. Donc, du coup, c'est littéralement un mot. Ça met à jour, tu dis oui, et puis ça met à jour tout. Il y a des systèmes d'exploitation, entre autres un que j'avais présenté, qui s'appelle Manjaro, et qui a un gestionnaire d'installation de programme, et qui, pour le coup, est extrêmement bien foutu. Je sais pas trop si... Manjaro, installer, je sais pas trop si... Non, Program Manager. Voilà. Non, toujours pas ça. Je sais pas. Qu'est-ce que je devrais. Ah, voilà, parfait. Donc, voilà, je vous le mets dans le chat ici. Ça, c'est pour HKMN. Donc, ça, c'est ce à quoi ressemble le gestionnaire de programme de Manjaro. Donc, en fait, tu as la liste de tous les programmes, ceux qui sont installés, ceux qui doivent être mis à jour, c'est graphique. Et pour le coup, je trouve ça super bien foutu. C'est pas comme le gestionnaire de programme de Ubuntu, qui était complètement dégueulasse, où il n'y avait pas tous les programmes. Enfin, c'était vraiment un truc à part, c'était vraiment bizarre. Et c'était vraiment très mal fait. Là, pour le coup, t'as vraiment tous les programmes de ton gestionnaire d'application, de ton gestionnaire de paquets, pardon. Du coup, graphiquement, tu sais ce que t'installes, tu sais ce qui est mis à jour, etc. T'as mis à jour à un clic. Et régulièrement, il te dit « Eh, salut, il y a des mises à jour à faire, est-ce que tu veux les faire ou pas ?» Et donc ça, du coup, c'est automatique et c'est vraiment bien. Donc, il y a des avancées de ce côté-ci. Manjaro le fait et il me semble que PopOS le fait aussi, mais je n'en suis pas sûr.
Il y a aussi, pardon, excuse-moi de te couper, Elementary OS, je sais pas si tu connais.
Oui, Elementary aussi, il le fait aussi, j'imagine, ouais. C'est vrai que c'est très user-friendly, du coup. Du coup, effectivement, alors HKMN, qu'est-ce qu'on en pense? Après, c'est un autre système d'exploitation, c'est un fonctionnement un peu différent. Après, je suis d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus user-friendly. Mais expliquer à une personne, t'ouvres cette fenêtre, tu tapes telle commande et ça te met à jour ton système, tu le fais une fois de temps en temps, c'est pas la mort. Voilà. Après, ma copine, je l'avais installé Manjaro, et ça fait un an, il y a se démerde avec, et puis voilà. Comme ça, j'ai pas à m'en occuper, puisque du coup, il y a le gestionnaire de paquets qui se met à jour tout seul, enfin qui lui dit, ça y est, une mise à jour. Et puis voilà. Et c'est littéraire, c'est pas. Niveau ordinateur, on a vu plus compétent, on va dire. J'espère qu'elle est pas là à écouter. Une question similaire à celle des jeux vidéo sur Linux. Pourquoi l'absence de compatibilité de nombreux logiciels pro, souvent propriétaires, c'est peut-être lié avec les OS Linux? Alors, parce qu'ils sont propriétaires, déjà, tu peux pas les porter sur Linux. Sinon, Photoshop, il y a de belles lurettes que des gens se seraient amusés à le porter. Et ensuite, pourquoi ils ne sont pas supportés sur Linux? Parce que il y a grosso modo le problème de l'œuf et la poule. C'est qu'est-ce qui est venu avant, l'œuf ou la poule? Et là, le problème, c'est qu'est-ce qui vient avant, les programmes ou les utilisateurs? Il faut des utilisateurs pour qu'une entreprise se dise c'est rentable de faire un programme sur Linux, mais il faut des programmes sur Linux pour que les utilisateurs se disent je peux passer à Linux parce qu'il y a mes programmes. Et là, du coup, tant qu'il n'y a pas une entreprise, comme par exemple Valve, qui dit bah, il n'y a pas d'utilisateur sur Linux, on va quand même mettre de l'argent dessus, et ils vont finir par arriver, ces joueurs, les utilisateurs, ils vont venir sur Linux à force, si on développe assez le truc, à moins qu'il y ait une entreprise qui fasse ça, ce qui est le cas, et merci à Valve, ça n'arrivera jamais. Windows est un peu forcé de faire ça avec un certain nombre de ses applications parce qu'en fait ils se rendent compte que Windows ça va commencer à leur coûter de plus en plus cher parce que les systèmes sont de plus en plus complexes, il y a de plus en plus de choses à développer, ça leur coûte de plus en plus cher, et Linux à côté de ça ça reste gratuit en fait, et les gens développent pour ça soit gratuitement ou soit parce qu'ils sont payés par des entreprises, puisque du coup Linux est extrêmement utilisé dans les entreprises, donc les choses changent. Notamment grâce à Valve, Windows commence à mettre de plus en plus de ses logiciels sous Linux. Par exemple, tu as Teams, tu avais Skype à une époque, et je crois qu'il existe toujours Skype d'ailleurs. Donc les choses changent. Maintenant, Photoshop et compagnie, c'est pas encore ça, effectivement. Après, il y a des alternatives, hein, mais ça reste des alternatives, et un utilisateur en général, il a ses petites habitudes. Bento, la Steam Deck sera basée sur Arch Linux. Effectivement, j'ai oublié d'en parler. Arch Linux fait parler de lui ces temps-ci parce que Valve fait une console de jeux vidéo que je vous montre vite fait là, c'est Steam Deck. Donc la Steam Deck. La Steam Deck, c'est donc une console de jeux vidéo portable qui va étrangement ressembler à la Switch. La Steam Deck va être facilement réparable, vous pouvez l'ouvrir, ils ont été très ouverts là-dessus, ils ont même une vidéo qui montre le matos à l'intérieur. Initialement, SteamOS utilisait Debian, ils se sont rendu compte que c'était une connerie et je comprends, je comprenais pas pourquoi ils avaient fait ça sur Debian, et ils sont passés à Arch Linux. Pourquoi ? Parce que Arch Linux, donc c'est la distribution que je vais présenter aussi ce soir, et celle que j'utilise, il n'y a pas de version. C'est ce qu'on appelle une distribution running release, c'est-à-dire à déploiement continu, grosso modo. C'est que pas de grosse version, vous mettez vos logiciels à jour en continu. Voilà. Donc il n'y a pas de grosse mise à jour, il n'y a pas de bascule à faire, ça va jamais casser, ça va toujours vivre sa vie. Et surtout, en fait, ça a les dernières mises à jour au niveau des cartes graphiques, au niveau du support hardware. Donc forcément, c'est un choix plutôt intéressant pour un tel matos, pour une telle entreprise. Et oui, effectivement, du coup, tout ce qui est EAC, anti-cheat, etc., j'en ai parlé, ça va passer sous Linux. Tant que les développeurs développent. D'ailleurs, il y a des jeux en bêta actuellement qui supportent Easy Anti-Cheat sur Linux. La VR, c'est bien supporté. Oui et non. Officiellement, oui, c'est bien supporté. Faudrait voir sur Steam, de toute façon, j'imagine qu'ils le mettent. Maintenant, il y a des jeux qui... Disons qu'après, ça peut être aussi un problème de... le jeu n'est disponible que sur Windows. et du coup, il peut y avoir des bugs de compatibilité avec Linux, ce genre de choses. J'ai pas de casque VR, donc je peux pas trop me prononcer là-dessus. Officiellement, c'est supporté. Maintenant, ça a besoin de plus de développement, à mon avis, et je miserai pas toutes mes économies là-dedans pour reprendre une phrase de Jean Covici. Grave stylé, merci beaucoup. Mais merci à vous, cher public, vous êtes géniaux. Quand Windows 8 utilise 20 gigaoctets, les OS Linux sont-elles aussi gourmandes? Bah alors, comme tu as vu, d'ailleurs, je vais montrer tout à l'heure, j'ai installé 2-3 choses. Du coup, ça va me permettre de montrer un peu ça. Reboot. Non. Avec 2 O et pas 3. Linux n'est pas très gourmand. Tout à l'heure, j'ai fait une installation, donc très minimaliste. Et l'installation a pris 3,3 gigabits, donc c'est-à-dire 3,3 gigas. Il y avait un environnement de bureau, Firefox. Si tu installes, admettons, un... Comment ça s'appelle ? Si tu installes une suite Office, si tu installes... qu'est-ce que tu pourrais installer d'autre ? Un lecteur vidéo, si tu installes un lecteur de musique, si tu installes des programmes assez basiques... je suis pas sûr que tu dépasses les 5 gigas, et je suis pas sûr non plus, encore moins, que tu dépasses les 10 gigas. Donc non, Linux prend vraiment pas beaucoup de place. C'est pour ça d'ailleurs qu'on aime bien l'installer sur des vieilles machines. Parce que du coup, si t'as un espace limité, bah au moins ça sera pas comme Windows qui va te prendre beaucoup trop de place, plus que nécessaire. Alors, tout à l'heure, quelqu'un me demandait pourquoi tel logiciel plus coûteux que tel logiciel. Du coup, je vais répondre là maintenant. Au démarrage, là, j'ai installé GNOME et j'ai installé KDE. Et en fait, ici, du coup, j'ai le choix entre XFCE, donc le bureau de tout à l'heure, et je vais mettre GNOME. Et tu vois qu'en fait, ça ressemble à tout à fait autre chose. Peut-être paramètres au niveau de l'affichage, mettre... écran, peut-être, définition 1920x1080, appliqué, voilà. Comme ça, sera peut-être un peu mieux. Et tu vois qu'en fait, au niveau de l'installation, la façon dont c'est géré, ça ressemble un peu plus à un mode tablette. Tu vois, avec tes bureaux, tu peux les faire défiler. Enfin, c'est personnellement, j'aime pas trop. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment. Hein. En revanche, tu peux voir tes applications ici. Éditeur de texte. Du coup, t'as un truc qui ressemble à ça. Et qui est vraiment différent, du coup, un fonctionnement très différent de XFCE, puisque du coup, tu vas dans Activité pour avoir ta liste des applications ici. Bon, c'est un fonctionnement différent. Et si t'installes, si tu lances par exemple Firefox, et là, tu vas dans Activité, tu verras Firefox. Si t'envoies par exemple ton gestionnaire de fichiers, hop. Merde. Si t'envoies ton gestionnaire de fichiers, hop. T'auras tout côte à côte, etc. C'est une question de préférence. Donc voilà, des fonctionnements tout à fait différents, des apparences tout à fait différentes. Donc oui, et donc, pour répondre à la question d'HKMN plus précisément, là je suis sur du Valdez Retro Satanas. Fermez la session. Fermez la session. Voilà. Je vais retourner sur XFCE parce que divine, qu'est-ce que GNOME est inutilisable. Du-H. Non, pardon. DF-H. Donc là, officiellement, le disque dur, il y a 7,3 gigas d'installé. J'ai installé 3 environnements de bureau, Firefox et... bref. 3 environnements de bureau, c'est quand même beaucoup. Hein. Mais ça prendra rarement plus de 10 gigas. Hein. Après, il y a des distributions qui prennent beaucoup plus de place. Par exemple, Ubuntu va prendre plutôt dans les 10 à 15 gigaoctets parce que, pour le coup, il y a beaucoup, 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 beaucoup de programmes par défaut. Donc ça dépend toujours de ce que tu veux. Nier. Faudrait que je termine un jour Nier. Alors, Arc, clairement, ça peut demander un peu de bricole de temps en temps. Donc, snapshot avant et rollback au pire. Arc, ça demande beaucoup de temps au début. Parce que en fait, l'installation, en fait, quand tu connais un peu, ça va très très rapidement. Le problème, c'est plutôt qu'après, il faut installer tous les programmes. Donc, il faut penser à tous les programmes qu'il faut installer. Et ça m'est arrivé souvent de dire « Merde, mais cette musique, elle marche pas, pourquoi ?»« Ah, c'est du FLAC, j'avais pas installé les codecs de FLAC. J'avais pas installé de quoi lire du FLAC. » Et du coup, t'es obligé de très régulièrement de dire bon, qu'est-ce que j'ai oublié d'installer encore. Typiquement, la police d'écriture ne fonctionne pas, bon, bah, c'est qu'elle n'est pas installée. Il n'y a pas d'emoji, c'est pas installé. Donc ça peut prendre beaucoup de temps au début. Après, une fois que ça fonctionne, moi personnellement, ça fait. J'ai acheté mon PC il y a un an et quelques, je crois, je ne me rappelle plus. Et bah, à part les mises à jour, pas grand-chose a changé, quoi. Sauf si vraiment je m'amuse à trifouiller dedans parce que je veux configurer un truc. Il n'y a pas Linux qui supporte Office, je sais plus lequel. Il y a pas de, alors il y a qu'un seul, il y a que deux Office qui sont supportés sur Linux, c'est LibreOffice et OpenOffice. Sachant qu'OpenOffice est moins bien que LibreOffice, voilà. Mais il n'y a pas de Windows Office en tout cas. Il n'y a pas la version Windows d'une suite Office. En tout cas, pas que je sache. Après, si ça a été fait, je suis passé à côté de cette information et là. Économiquement, c'est une économie de combien de pourcents des prix ordi et outils? Aucune idée. Si tu montes ton PC toi-même, une machine fixe, t'achètes ton PC, voilà, ta tour, carte graphique, carte mère, etc. C'est simple, hein, tu. Hop, matériel.net. Windows. C'est une économie apparemment de 209€ pour la version pro. Apparemment, c'est une économie de 159€. Voilà. Grosso modo. Donc voilà son économie. Après, faut savoir quand même que c'est un peu faux. Si tu achètes une machine qui vient avec déjà Windows, en général, ils ont des contrats. Donc en fait, tu payes beaucoup moins cher la licence puisqu'il y a des contrats entre les constructeurs et Microsoft. Après, quel est le prix réel? Je sais pas. En tout cas, ça fait un certain temps que tu peux te faire rembourser le coût de la licence Windows si tu installes un autre système d'exploitation. Il me semble que tu peux te demander à te la faire rembourser. Tails. Ah oui, effectivement. Alors, il y a plein de distributions différentes. J'ai parlé tout à l'heure de Kali Linux pour faire du pentesting, par exemple. Vous avez Ubuntu pour les entreprises, Fedora pour. On ne sait toujours pas. Si, pour bêta-tester Red Hat Enterprise Linux. Et TailOS, c'est la distribution qui a été utilisée par Edward Snowden pour faire les leaks de la NSA. Donc, c'est une distribution qui ne s'installe pas, qui se met sur une clé USB. Et qui, grosso modo, vous garantit l'anonymat. Grosso modo.
Pour le coup, non, ouais, enfin, pour le coup, j'ai bricolé un peu avec eux. C'est surtout fait pour proposer une solution aux journalistes, dissidents, etc., où c'est difficile de faire des conneries en utilisant Tor, et où de base, tout est chiffré, etc. Ça vous garantit pas l'anonymat du tout, et il faut... Par contre, ça aide à être assez bien secure et c'est facile à utiliser sans faire de conneries. Donc, ça permet de conseiller quelque chose sans risquer de donner un faux sentiment de sécurité, on va dire.
Mais du coup, si par défaut ça passe par Tor, je veux dire, au niveau de l'anonymat, pourquoi ça serait pas.
Alors Tor c'est pas parfait comme anonymat, oui, si tu vas te loguer à un endroit, si tu utilises ton circuit pour divulguer, enfin que tu te logues quelque part et que tu divulgues ton identité, bah tu seras pas protégé, il y a plein de façons de se tirer une balle dans le pied, même en faisant tout passer par Tor.
Ok, je vois ce que je veux dire. Tu veux pas un code NordVPN? Il y a quelqu'un qui est... On n'est pas des youtubeurs, Gatsby, on fait pas de la pub pour NordVPN. Distribution Linux pour la vie privée, avec Tor par défaut. Il y a d'autres questions là, parce que du coup je lis les commentaires, mais... LibreWolf 44 commit, c'est osé. C'est-à-dire... Ah, t'es allé voir leur git, voir ce qu'ils faisaient? Mais en fait, LibreWolf, en fait, au niveau du navigateur, ils reprennent à chaque fois la dernière version de Firefox et ils reconfigurent le truc, grosso modo. Donc, ils développent pas concrètement le navigateur.
Pour le coup, c'est la première fois que j'en entendais parler. J'étais un invité, mais bah, ils ont quasiment rien de spécifique par-dessus, quoi. Enfin, je sais pas.
Bah, c'est juste de la configuration. C'est purement de la configuration par défaut. C'est vraiment okay, pour ça. Hein. C'est vraiment ça. C'est... Ouais. C'est Firefox, mais configuré avec vie privée, quoi. Mais voilà.
En non, soit, ils ont l'air à jour au moins.
Donc, voilà.
Ils suivent les patchs Firefox, c'est déjà ça.
Oui, oui, ils les suivent. Après, il y a GNU AS4 qui, à mon avis, font un peu plus de dev, j'imagine. Mais je vais pas les vérifier.
Eux, ils virent sur tous les trucs. Mais maintenant, ça existe plus, AS4, je crois, parce que Firefox a donné le droit. À l'origine, c'est parce qu'ils pouvaient pas utiliser la marque. Et donc, ils forquaient juste pour avoir le droit de le recompiler eux-mêmes et de le distribuer eux-mêmes avec des légères modifications chez Debian. Maintenant, Firefox leur a donné le droit une exception pour utiliser la marque. Donc, je crois que même sous Debian, maintenant, c'est Firefox direct. Il n'y a plus de AS4.
C'est quoi ta police d'écriture sur Firefox? Aucune idée. C'est vraiment une question pour moi, là? Sérieusement? Police d'écriture par défaut sur Firefox? C'est la police d'écriture par défaut, j'imagine. C'est dans quoi? Dans général par défaut, déjà vu serif. Voilà. Pardon.
J'ai une question rapidement. Là, toutes les manipulations que tu as faites manuellement, est-ce qu'on aurait moyen de les automatiser pour avoir juste à lancer la machine et elle se configure d'elle-même pour installer un OS?
Oui. C'est pour ça que j'avais dit en préambule que c'était une très mauvaise image de ce qu'est réellement Linux que j'allais faire ce soir, parce que le but c'était de vous présenter un système minimal et de voir un peu les gros blocs qui permettaient du coup d'avoir un affichage, d'un environnement graphique, etc. Du coup, bien entendu, si vous installez par exemple Manjaro, ou si vous installez Ubuntu, ou si vous installez PopOS, vous allez avoir un installeur graphique similaire à peu près à ce qu'il y a sous Windows, et qui du coup vous tient la main jusqu'au bout. Pour Arch Linux spécifiquement, pour les distributions un peu comme ça, il y a des types bien entendu qui se sont amusés à faire des scripts. Et Arch Linux aujourd'hui a même un installeur graphique qui aide à installer Arch Linux comme ça sans
qu'on ait à taper
des trucs. Ouais, ils ont refait récemment le truc. Ils l'ont remis récemment, ça date de genre il y a 2 semaines, un truc dans le genre qu'ils ont annoncé ça.
Ok, d'accord.
Mais après j'ai pas utilisé, je l'utilise pas. Parce que ça me prend pas longtemps de taper les commandes. Et puis je fais pas des installations tous les 3 jours. Je dois vous avouer. Mais
effectivement,
il y a des scripts, et puis bien entendu tu peux le faire toi-même du coup, et qui fera tout pour toi. Après attention. Merci. Parce qu'il y a toujours des spécificités sur par exemple les disques durs. Si par défaut ton script est configuré pour écrire sur le disque SDA et que t'as un système sur SDA et que tu veux l'installer sur SDB, j'aimerais bien voir ça. Le DNS de Google est con.
Par défaut, le disque dur s'appellera le premier disque dur, c'est SDA, deuxième SDB, etc. Ouais,
oui. Les lettres, c'est pour les disques durs, et puis après les numéros derrière, c'est pour les partitions. Twist, c'était une blague en disant que le DNS de Google était considéré respectable, bien entendu.
Merci.
Quand même. C'est parce qu'ils conseillent sur les sites de streaming des fois. Alors, beaucoup de sites de streaming conseillent Cloudflare, mais bon, niveau vie privée, je pense qu'on a connu mieux, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est quoi ta police sur Firefox? Ça a été répondu. Le open de OpenDMS est en référence à ton arrière-train, pas à l'heure pratique. Ok, alors comme ça, c'est fait. C'est quoi le top des livrets blancs à faire? Un livre blanc sur la gestion de mot de passe. Un livre blanc sur la prise de notes. J'ai pas trop compris. Certains OS proposent de base de chiffrer ton disque, non? Oui, effectivement. Il y a des disques. Il y a des. Beaucoup de distributions qui, par défaut, proposent le chiffrement du disque. Notamment de mémoire Ubuntu.
Je donnais des idées sur les livres blancs, en fait. Tout.
D'accord. Non, un livre blanc sur la vie privée, ça serait intéressant à faire, effectivement. Faudrait organiser ça un jour. Vie privée, informatique, et en dehors, dans la vraie vie.
Ok. Tu vois, par exemple, un sur la prise de notes, moi je suis intéressé par ça aussi, si tu as des ressources. C'est intéressant d'organiser ses notes pour être assez efficace en fait quand tu t'écris des notes. C'est un peu comme les journalistes, mais tu vois, après tu organises toutes tes idées, tout ça, et après tu peux peux sortir tout ça assez vite, quoi. Tu peux peut-être tu fais un parcours mental pour trouver tes informations. Ça, je sais pas.
Bah effectivement, moi personnellement, je suis pas très, je suis pas la personne la plus adéquate à ça, je pense. Clairement. Mais si quelqu'un.
Après, je connais pas le périmètre de l'after thinking en général.
Bon. Faut demander. Hors ThinkPad de l'époque, ouais, les ThinkPad. Il y en a qui traînent beaucoup trop sur des image boards. Certains OS proposent de base de chiffrer ton disque dur. Non, oui, effectivement. Donc ça, j'ai répondu. Ubuntu, par exemple, propose le chiffrement par défaut. Il y a des ordinateurs de marque français. Bah, de toute façon, aucun composant serait français, déjà, par défaut. Ni même européen, je pense. Après, des marques françaises, j'en connais pas. Je connais des marques anglaises. Après, il y a des marques d'ordinateurs qui font des ordinateurs qui, par défaut, viennent avec Linux. Il y en a quelques-uns. Alors, il y a Dell qui fait ça pour destination des professionnels, mais il y a des marques un peu plus pour le grand public qui en font. Des ordinateurs portables. Maintenant, je sais pas ce qu'ils valent. Donc, je vous le conseille pas spécialement, je vous dis juste que ça existe. Voilà. Guide de survie d'Internet. Hygiène informatique Internet. Ah oui, il y a le livre blanc de Cap. Le driver proprio Nvidia, Optimus, il y a moyen. Bah, les drivers de Nvidia fonctionnent, hein. Je dis pas le contraire. C'est juste que du coup, les drivers de AMD sont un peu plus fiables, on va dire. Par exemple, typiquement, je vais vous donner un exemple très concret. Quand Cyberpunk 2077 est sorti, il était jouable day one sur les drivers AMD, pour toutes les cartes graphiques AMD, mais pas Nvidia. Il a fallu un peu de temps pour Nvidia. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pas d'autres questions ? L'œuf ou la poule, c'est pas le transistor. Sinon, vous connaissez des jeux open source ? OpenTDD. Non, il y a des jeux open source. Il y a un jeu open source qui est assez marrant qui s'appelle 0AD. Et en fait, c'est grosso modo un genre de civilisation en fait. Enfin bref. Non, civilisation ou Age of Empires ? Je m'en rappelle plus. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Mais effectivement, parce que j'ai trop de jeux à finir déjà. Mais effectivement, il y a des jeux open source qui existent. Il y a un jeu aussi qui est magnifique et qui est une. Ah, par contre, je me rappelle plus du nom. Mais il y a une version open source de Civilization 5 qui existe sur Android, par exemple. Je rappelle qu'Android, c'est du Linux. Un peu spécial, mais c'est du Linux quand même. La première partie du podcast est en ligne. J'ai vu la vidéo, c'est marrant. Les premiers liens, ne faites pas ce qu'on va vous montrer. je pense qu'on peut arrêter le. Je pense. RM-RF. Vous voulez vraiment que je fasse un RM-RF sur la machine virtuelle ? On en est où d'un OS pur Linux sur smartphone ? Alors, un OS pur Linux sur smartphone. On continue le streaming ou pas ? On continue le livre blanc, Melk, ou on arrête ou... Enfin, on reste dans le sujet, j'ai envie de dire, mais.
N'importe, s'il reste quelques questions, ça pourrait peut-être intéresser les auditeurs du podcast. Sinon, réponds à quelques questions et puis clôture, fais une petite conclusion.
Je vais répondre aux dernières questions là qu'il y a. Alors, au niveau OS pur sur Linux pour smartphone, alors, techniquement, Android, ça reste du Linux. Maintenant, c'est pas très pur. Du coup, il y a quand même une version open source de Android qui s'appelle. Comment il s'appelle déjà ? AOSP, je crois, Android Open Source Project, et sur lequel ouais. Beaucoup de gens se sont amusés à faire des distributions d'Android qui, du coup, sont un peu plus. Ils ont viré un peu tout ce qu'il y avait concernant Google, etc. Et qui, du coup, permettent d'avoir un système un peu plus libre, on va dire. Maintenant, en termes de système d'exploitation pur Linux, tu as Ubuntu Touch qui a été renommé en UBPort, voilà, que je me rappelle du nom.
Les bots viennent de nous lâcher, donc pour moi, c'est réglé.
Ensuite, tu as, comment ça s'appelle, Post Market OS, voilà. Grosso modo, c'est t'as ces deux distributions. Alors, t'as un téléphone en particulier qui est assez sympathique. Je vous mets le lien ici. Donc, c'est du hardware open, on va dire. Ils ont un petit problème, c'est qu'au niveau des drivers, ils ont un peu du mal à réussir à avoir des drivers open source, des drivers libres. Mais grosso modo, ce système vient avec plusieurs systèmes d'exploitation. Donc vous avez UBPort. Alors UBPort, grosso modo, c'est une version smartphone de Linux. Et j'ai un téléphone portable avec UBPort. Donc c'est fonctionnel. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez envoyer des SMS. Les MMS ne marchent pas super bien. Mais c'est fonctionnel. Internet, GPS, tout ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, il n'y a pas d'application. Il y a des bugs. Et ça peut être vite très très chiant pour un utilisateur lambda qui veut un truc qui fonctionne bien. Donc c'est très bien pour des développeurs, c'est peut-être bien pour des gens qui se disent « Non, je veux un smartphone entièrement open source ou libre. » Niveau fonctionnalité, c'est pas tout à fait... c'est pas la ramasse, mais il y a quand même des bugs, quoi. Faut avouer ce qu'il en est. Ensuite, il y a le vrai système d'exploitation Linux, ça reste Post-Market OS, qui là, pour le coup, c'est du Linux pur et dur. Il y a des gens qui se sont amusés à faire des distributions de Post-Market OS, version Manjaro, version KDE, version ce que tu veux. Il y a du support, donc sur le Wikipédia, il y a... Je vais vous mettre du coup le lien pour ce truc là. Donc il y a du support au niveau des appareils. Ça vous dit qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc il y a certains appareils, par exemple, typiquement je crois le PinePhone, les appels ne fonctionnent pas. Là la caméra ne marche pas tout à fait pour les PinePhone. Je crois qu'il marche mais à une image par 5 secondes, une image toutes les 5 secondes. Donc c'est pas tout à fait ça. Donc c'est un peu au bonheur la chance. C'est vraiment selon. Sur quel appareil les développeurs travaillent. Et ça reste du bêta, ça reste du truc pour développement, quoi. Ça reste un système d'exploitation pour on va dire, hobbyistes, pour des personnes passionnées et qui ont envie de s'amuser un peu en informatique dessus. Donc on n'en est pas encore. Maintenant, ça reste utilisable pour faire des appels, SMS, aller sur Internet et ce genre de choses. Mais il n'y aura pas d'application, très clairement. Il y a beaucoup de travail qui est fait pour faire un programme qui va traduire un genre de Wine, mais pour smartphone et pour Android. Donc en fait, réussir à faire tourner des applications Android sur ces systèmes-là. Ça marche pas encore. Il y a des... C'est en bêta, ça marchouille un peu, mais c'est pas encore tout à fait fonctionnel. Bref, c'est quoi comme environnement de bureau? XFCE, le meilleur, le seul utilisable, rapide, efficace et customisable. Après, il y a des smartphones qui sont vendus par défaut avec du Ubuntu. Hein. C'est ceux qui veulent acheter un nouveau smartphone dessus. Mais par contre, je vous préviens, s'il y a des bugs, je vous aurais prévenu. T'as flash ta tablette. Je n'ai pas flash ma tablette, j'ai directement acheté le smartphone comme ça, puisque je devais changer mon smartphone qui a pris un peu cher. Donc du coup, en fait, j'ai directement acheté un smartphone qui venait avec. Smartphone fabriqué en Allemagne, qui s'appelle Vola. Mais du coup, je pense que je vais le flash et je vais installer une autre version, un autre système d'exploitation qui est en fait un truc basé sur Android Open Source Project. Voir si ça marche un peu mieux, si j'ai moins de bugs. GST avait déjà mis Pine et Purisme. Bravo. C'est vrai qu'il y a Purisme aussi. Effectivement, j'avais complètement oublié que ce smartphone existait et qu'ils avaient leur propre système d'exploitation. Bien vu, GST. Allez, Zilou, lance ton sort en VPN. À une époque, je voulais mettre des bans pour ça. Mathieu, NordVPN, c'est plutôt recommandé pour l'interrogation. Normalement, ils ont une bonne politique de la gestion de notre vie privée, non ? Personnellement, pas certain que je ferais confiance à un VPN, en fait. Quel que soit le VPN, en fait. Donc, à mon avis, je passerais plutôt par VPN plus autre chose. Je sais pas ce que JST en pense, je sais pas si des gens compétentes, plus compétentes que moi en pensent, mais la plupart des mecs qui te fournissent un VPN, de toute façon, ils ont des obligations légales dans leur pays. Donc en fait, niveau vie privée...
Bah les VPN c'est bien, mais faut que ce soit toi qui les gères, quoi.
Ouais, tu pourras jamais... Tu peux pas faire... En fait, c'est une question de confiance. Et tu peux pas faire confiance à un tiers qui, de toute façon, est soumis à des lois. Typiquement, par exemple, ProtonMail, c'est un exemple très bien. Au niveau des gestions de mail, tu peux avoir une adresse Gmail. Bon, là, t'as perdu. T'as une adresse Hotmail, t'as perdu aussi. T'as une adresse iCloud, t'as perdu. Et tu peux dire, tiens, vas-y, je vais faire confiance à un gestionnaire de mail qui a l'air un peu plus correct. Donc, ProtonMail, ils gardent pas de log. Officiellement, ils ont pas de log, etc. Ça fonctionne. C'est... Ils chiffrent.
Il y a un process ce matin, quand même. Oui,
voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais en fait, si, la France, par exemple, un exemple tout à fait hasard qui n'est pas du tout inspiré de la vie réelle, si la France dit, vous voyez cet activiste écologiste qui nous emmerde un peu, il a utilisé ProtonMail et on voudrait savoir c'est qui. Bah, la France peut dire, bah, ce type-là c'est un dangereux terroriste qui va faire de l'écoterrorisme, il demande à Interpol de pouvoir avoir accès à ces informations. Donc ils envoient une demande à la justice suisse. La justice suisse, elle va dire « Ouais, ok, la demande, elle est conforme, on est d'accord. Il faut que ProtonMail coopère avec la justice française, avec la police française. Et bah, ProtonMail n'aura aucun autre choix que d'activer les logs pour ce compte et de fournir toutes les informations à la justice française. » Donc
ça veut quand même dire deux décisions de justice, quoi, dont une suisse ou la protection voilà. De la vie privée. Et quand même pas mal. Je dis ça depuis l'intérieur de la Suisse.
Quand ProtonMail a dû faire ça, ils ont fait un petit... Enfin, tout le monde leur est tombé sur en mode « Ah, comment ça, vous donnez les informations de vos utilisateurs ?» Ils ont dit, bah, ils ont expliqué un peu comment ça fonctionnait. Et ils ont critiqué surtout c'est la politique sécuritaire de la France qui était complètement absurde. On demande à traquer un écologiste, quoi. Et quelqu'un a parlé.
Ouais, c'est moi. Ils ont gagné un procès là, c'est sorti il y a quelques jours. J'ai pas encore tout lu.
Ce matin, ouais. Ils ont pas... Parce que le risque c'était qu'on les oblige à loguer tout le temps. Et le risque après c'est qu'on te demande a posteriori les logs de machin. Et ils ont gagné le procès au sens où il y a que dans le cas précédent, avec une décision de justice sur le moment de la justice suisse qui les oblige à activer les logs pour un individu en particulier qui sont obligés de loguer. C'est-à-dire, ils peuvent continuer à ne pas loguer par défaut. Par contre, quand il y a une décision de justice suisse, ils sont obligés d'activer les logs et puis de donner ce qu'ils ont sur l'utilisateur en particulier, quoi. Ce qu'ils ont gagné, c'est le droit de pas loguer par défaut.
Comme voilà, ils font. Bon, après, c'est un cas spécifique quand même, ce que Zilati raconte. C'est un truc ciblé. Moi, je trouve qu'ici, le fait qu'ils ne puissent pas loguer en mode télécom, tu vois.
Bah, c'est ça. Pas de Dragnet. Et il y a eu une décision de justice suisse où la Suisse est quand même pas super friande de courir après les gens sur...
Bah, en fait, je vais te la faire plus simple, en fait. Si tu utilises des emails pour en pensant que ça va te protéger de quoi que ce soit, c'est quand même... T'es vraiment courageux, quoi. Il y a d'autres moyens de communication qui sont clairement plus sécurisés. Donc... par défaut, utiliser du mail, c'est pas forcément une très bonne idée. Même du mail chiffré, j'ai envie de dire.
On est d'accord, mais t'as besoin de mail pour échanger ou pour t'inscrire à certains endroits.
C'est
une bonne solution, on va dire.
Il y en a, t'as pas de vérification d'adresse mail, typiquement. Donc, ou alors tu peux utiliser des boîtes, je sais plus comment ça s'appelle, des boîtes mail juste temporaires, oui. Quoi, des trucs qui... Juste pour activer un compte, quoi. Mais typiquement, t'as plein d'applications de discussion décentralisées ou centralisées d'ailleurs, qui peuvent être utilisées conjointement à Tor et qui te permettraient du coup de discuter avec quelqu'un.
Il y a
des solutions plus sécurisées.
Dites si le sujet dérive en discussion de café et encore moins sur les OS, on peut peut-être arrêter les bots.
Ouais, bah les bots sont déjà arrêtés en fait.
Dans le doute, je sais pas s'ils continuent à enregistrer, je vais le couper à coup de commande, on verra bien.
D'accord, ce que bah du coup, bah, j'ai envie de dire, petite conclusion rapide hein, et puis après on met fin. Bah j'espère que ça vous a plu. Voilà la conclusion. Par contre, oui, effectivement, je répète, ce que j'avais montré au début, bah, c'était purement d'un point de vue technique, montrer un peu le gros des composants qui existaient et voir du coup un système qui se construit. Donc prenez ça pas comme étant. Démonstration de ce qu'est Linux réellement. Il y a d'autres systèmes d'exploitation beaucoup plus. D'autres distributions plus user-friendly, on va dire. Plus amicales auprès des utilisateurs. Donc voilà. Puis je vais mettre fin aussi du coup au stream sur Twitch.
Bah merci Zilot, c'était top.
De rien, de rien. À la prochaine pour un livre blanc vie privée apparemment.